Avoir réussi à venir jusque-là, avoir bravé tous les obstacles. Donc cette journée, vous voyez que certains ont des gommettes rouges. Les gommettes rouges, en général, ce sont ceux qui sont déjà participants du CIF, qui ont fait le CIF dans le passé ou qui ont entamé un parcours. Et c'est intéressant pour vous de les repérer parce que bon, la journée va se dérouler tranquillement. Il y aura des moments de pause, il y aura le déjeuner. Toujours intéressant de, voilà, d'écouter leur expérience, comment ils vivent les choses. Et puis vous, les anciens déjà, d'accueillir ceux qui viennent pour la première fois. Il y a quand même une bonne dizaine de personnes qui viennent ici pour la première fois. Ils vont sentir un peu l'esprit, ce qu'on fait. Ils vont découvrir Roselyne, qui est en charge de tout ce qui est la partie Bible au CIF. Moi-même, je suis donc Aude Ragozin. Je suis la présidente du CIF. Et puis, vous avez quelques personnes qui ont des badges, qui sont soit des accompagnateurs de groupe, qui interviennent plus directement dans la bonne marche du CIF. Tout ça, ce sont des occasions de pouvoir vous informer, questionner. Donc, cette journée, elle s'inscrit dans un lot de 3 journées consacrées à la Bible, qui sont toutes animées par Roselyne Dupont-Roc. On a déjà fait au premier trimestre une journée consacrée à l'Ancien Testament. Ici, elle va opérer le passage au Nouveau Testament. Mais ne vous faites pas de soucis pour ceux qui viennent juste à cette journée. Hein, ça se tient tout seul. Et puis, il y a une troisième journée qui est consacrée à Saint Paul et aux communautés chrétiennes qui a déjà eu lieu. La particularité de cette journée, c'est qu'elle ouvre le cours du nouveau trimestre, qui est un cours consacré au Christ, qui va être donné à partir de lundi prochain par le père Bernard Clazen, qui est le nouveau directeur du CIF. Donc, ça fait un tout, mais pas de souci, vous pouvez aussi juste venir à la journée, ça vous permet de commencer à sentir les choses. Donc comment ça va se passer? On va essayer de terminer vers midi et quart. Il y aura une petite pause au milieu où vous pourrez reprendre un petit café, courte. Et à midi et quart, juste pendant environ une demi-heure, ceux qui veulent en savoir plus, s'informer, qui se posent des questions pour l'année prochaine ou pour s'inscrire à un trimestre, on aura tout le temps de se rencontrer tranquillement et de vous donner quelques informations. On reprend à 1h30, donc 1 heure pour le déjeuner. Vous pouvez déjeuner ici si vous avez un pique-nique, il y a une boulangerie en face, sinon. Et on termine à 4h, parce que d'expérience, on est fatigué encore à la fin de la journée à être resté assis comme ça. Vous avez aussi, dans l'entrée, un stand de librairie où vous trouverez un certain nombre d'ouvrages fondamentaux et notamment qui appartiennent à la bibliographie de Roselyne, que vous pouvez acheter. Dernière chose, on va prendre 4-5 photos pendant la journée. Si certains ne veulent pas, ces photos sont destinées au site, hein, une ou deux, hein, si certains ne veulent pas apparaître, qui nous le disent. Et puis dernière chose, le prochain grand rendez-vous, c'est le 28 mars, à nouveau pour un samedi complet, et ça sera une journée consacrée aux évangéliques. Voilà. Dans le cadre de nos journées sur les rencontres œcuméniques ou l'interreligieux. Et les évangéliques, c'est voilà, une église évangélique se crée tous les 10 jours en France. Donc on y est souvent confronté. Important de mieux les connaître parce que ce sont des grands inconnus pour nous. Voilà.
Merci. Je remets ça là. Voilà, alors vous savez tout sur la façon dont la journée se déroule. Je précise quand même que vous avez un dossier. Vous avez tous un dossier, je ne sais pas quelle couleur il est, vert, voilà. Que vous n'êtes pas censé prendre des notes, parce que tout ce que je vais dire est dans le dossier, il y en a même un peu plus. Hein. Le dossier est un peu plus lourd parce que la journée, malgré tout, est courte. Donc, ne prenez pas de notes, regardez, écoutez. Alors, surtout, dites-moi si vous n'entendez pas ou si à un moment donné, vous n'entendez plus. Réagissez tout de suite, n'attendez pas d'avoir perdu un quart d'heure. Moi, je ne peux pas être au bout de la salle. Ou si vous voyez mal. Vous pouvez donc vous détacher de vos tables si vous êtes disposé à l'envers, puisque normalement, il n'y a pas de notes à prendre. Par contre, Vous êtes appelé à réagir et donc il y aura des moments de questions. Et si vous avez des grosses questions, c'est-à-dire si vous décrochez complètement pendant que je suis en train de parler, vous n'attendez pas d'être tombé par terre, vous levez tout de suite la main. Ça va ? Voilà. Alors, comme Aude vous l'a dit, cette journée, à la fois, prend la suite de la présentation de l'Ancien Testament, veut être une introduction au Nouveau Testament. En fait, c'est le passage de l'un à l'autre. Et évidemment, celui qui accomplit le passage de l'un à l'autre, c'est Jésus que nous confessons comme Christ et qui va donner lieu, qui va être le sujet du cours qui va suivre de Bernard Classen. Je résume tout ça dans ce chapiteau que vous connaissez probablement, de l'église de Vézelay, qu'on appelle souvent le chapiteau mystique. Alors, je suis allée vous le photographier en rentrant de vacances à Noël. Ce chapiteau du XIIe siècle a été évidemment chargé de symboles, évidemment. Il a été interprété très largement. L'interprétation première et majoritaire, c'est que vous avez Moïse. Moïse est celui qui est au-dessus. Moïse est le premier. Et Moïse verse dans l'espèce d'entonnoir du moulin le grain de l'alliance, de la première alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament. De l'autre côté, vous avez un petit personnage qui est Paul de Tarse, que les chrétiens appellent Saint Paul, et c'est Paul qui actionne le moulin. Or, si vous regardez le moulin, il est évidemment schématisé, mais c'est une roue au centre duquel laquelle il y a une croix. Le moulin, c'est le Christ, c'est lui qui, par sa croix, assure le passage de l'Ancien au Nouveau. Et Paul recueille avec soin dans son sac la farine du Nouveau Testament. Voilà. Vous savez tout sur la journée. Bon, là, je trouve que ce chapiteau est magnifique et en plus, il est chargé de signification, évidemment. C'est le Christ, la croix du Christ qui est au centre. Alors, maintenant, je vous le dis autrement. Autrement, c'est la même chose, mais maintenant, à partir des textes, entre 54 et 56 après Jésus-Christ. Enfin, de toute façon, c'est 25 ans au maximum après la mort et l'expérience de la résurrection de Jésus. Paul écrit aux Galates, qu'il a évangélisé quelques années auparavant. Les Galates, c'est le nord actuel de la Turquie, hein. Voilà, un pays païen auquel Paul a annoncé l'évangile. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Et déjà, tout ce que nous disons du Christ est présent là-dedans. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. Il est le Fils de Dieu. Il est envoyé. Mais en même temps, il est né d'une femme, homme, pleinement homme parmi les hommes, et né sous la loi, c'est-à-dire que la loi, c'est la loi mosaïque, il est juif. Et donc, partir de là, c'est se dire que Jésus de Nazareth, celui que ses disciples, et ceux d'entre nous qui sommes des disciples, proclamant Christ et Fils de Dieu, il est né à un moment de l'histoire. Et ce moment de l'histoire n'est pas anodin. Il faut le connaître pour avancer dans la compréhension de qui est ce Jésus de Nazareth. Une province de l'Empire romain, au sein du peuple juif, et si nous voulons comprendre quelque chose au Nouveau Testament, c'est bien à ce qu'a vécu et ce qu'a attendu et ce qu'a compris comme promesse de Dieu ce peuple juif qu'il faut nous intéresser. C'est pour cela que je vais repartir 500 ans en arrière, ce qui me permet de boucler avec la présentation de l'Ancien Testament que j'avais fait en début octobre, et qui s'arrêtait quand ? Eh bien, 500 ans avant, à peu près, hein, 5 siècles avant la naissance de Jésus, au retour de l'exil des Juifs à Babylone, qui c'est un exil qui a été un traumatisme terrible, entre 570 et 538. Voilà. Et où là, s'est constitué à Babylone l'essentiel de ce qui va devenir le judaïsme dans lequel Jésus est né. Je repars donc de cette date, 538 avant Jésus-Christ, qui est le moment où le roi de Perse, Cyrus, ou le chef des Perses, Cyrus, a balayé l'Empire babylonien. Et même si vous ne voyez pas grand-chose sur cette photo, vous voyez la tache rose ? La grande tache, pas rose, comment elle est, saumon clair. C'est l'Empire perse en 500. Vous imaginez, depuis l'Inde, aux abords de l'Inde, jusqu'aux abords de la Grèce. Tout ça, c'était un seul empire entre les mains des rois perses, avec le premier, Cyrus, qui avait comme politique, et ça s'est poursuivi chez ses successeurs, malgré des bagarres, des luttes, on ne va pas raconter tout ça, sa politique, c'était de laisser aux différentes régions et aux différents peuples qu'il dominait leur culture, leurs habitudes, leur religion, pour peu qu'ils soient soumis et qu'ils payent l'impôt. C'est tout ce qu'il leur demandait. Ne pas se révolter, payer l'impôt, ensuite vivez votre vie. Alors on a dit que Cyrus était un humaniste avant l'heure, peut-être un roi religieux, ou simplement un prince qui avait une sagesse politique assez remarquable. Peu importe. En tout cas, on sait que les Juifs qui avaient été environ probablement 10 ou 20 000 déportés à Babylone 50 ans auparavant, qui avaient perdu leur terre, leur temple, leur roi, et qui doutaient, au fond, de la présence de Dieu avec eux, mais qui avaient repris courage, ceux-là ont eu l'autorisation, au moins ceux qui le voulaient, de rentrer chez eux. Voilà. C'était plus l'an prochain à Jérusalem, c'était tout de suite, si vous voulez, à Jérusalem. Alors, ils ne sont pas partis tout de suite, et ils ne sont pas tous partis. Une bonne partie, les Juifs, qui s'étaient constitués de façon assez fortement identitaire, sont restés à Babylone, et ça va donner la grande diaspora juive de Babylone qui a continué à travers les siècles. Mais les plus fervents, les plus identitaires, les plus désireux de la cohésion d'un peuple en lien avec son Dieu, obéissant à son Dieu, ont commencé à rentrer, et il y a eu des vagues successives de retour. Entre 538 et 500, et même un peu après, il y en a un bon nombre qui sont rentrés, se réinstallés à Jérusalem. Et si un jour vous ouvrez le livre d'Isaïe, et je vous invite à le faire, dans les chapitres 40, vous pouvez aller tout droit au chapitre 43, et vous verrez que ce retour annoncé, déjà un peu mis en œuvre, est vécu par ce prophète juif qui est l'auteur des chapitres 40 à 55 d'Isaïe, comme non seulement un nouvel exode, on recommence à sortir d'Égypte et à nouveau on rentre vers la terre promise, mais comme une nouvelle création. Dieu va faire du nouveau. Déjà, ça bourgeonne. Vous ne voyez pas que c'est en train de... Voilà. Dieu va nous créer à nouveau, créer un peuple nouveau. Alors ça, c'est l'espérance extraordinaire qu'ils ont eue, ceux qui sont rentrés. Ensuite, il a fallu traverser. Vous voyez quand même qu'on part de Babylone ici et il faut aller jusqu'à Jérusalem, là. Il faut passer par en haut, hein. On ne traverse pas le désert. Donc il faut marcher, peut-être à d'autres chameaux, mais surtout marcher. Et arrivé à Jérusalem, l'installation a été certaines, mais pas faciles, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, et que c'était ceux qui n'avaient pas été déportés, et que tout était à faire, il fallait reconstruire le temple, reconstruire les murailles, et puis, au fond, asseoir là, installer là, un nouveau visage du judaïsme. Et c'est ce nouveau visage du judaïsme qui va s'installer là, et qui sera celui dans lequel naîtra, 500 ans plus tard, Jésus de Nazareth, et donc je voudrais vous en parler maintenant. Ça va là, jusque-là ? Ça y est, vous êtes rentré de Babylone, vous arrivez à Jérusalem ? Bon, fatigué, mais content d'arriver. Pendant ce temps, d'autres sont restés. Hein. D'autres sont restés à Babylone et ailleurs, et ont développé leur foi dans le monde des synagogues, avec là quelque chose que nous avons encore aujourd'hui, avec le judaïsme des synagogues. C'est à Jérusalem, à ce moment-là, qu'on peut vraiment dire qu'est né le judaïsme. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, autour de l'année 500, que le mot apparaît. Le mot grec, judaïsmos, n'existait pas avant. On parlait des Israélites, des fils d'Israël, des Hébreux, dans un passé très lointain. Mais on ne parlait pas des Juifs ni du judaïsme. Ça apparaît à ce moment-là, en opposition avec le monde qui va devenir le monde grec. Ce judaïsme, il va déjà à Babylone, et surtout au retour à Jérusalem, il va se caractériser par quelques signes, quelques rites qui sont, par définition, et voulus comme tels, des rites de séparation. Pourquoi ? Parce qu'on avait failli perdre l'identité juive à Babylone, dans cet immense monde babylonien qui avait ses séductions et sa force, et il fallait retrouver une identité forte. Ceux qui vont asseoir cette identité forte, ce sont des prêtres, ceux qui ont beaucoup travaillé à Babylone pour rassembler les traditions, pour garder l'identité, et des scribes, parce que les scribes, c'est ceux qui écrivent, qui copient, qui savent lire, et ce sont eux qui font la mémoire du peuple. Ça va, ça aussi ? Alors, les rites qui vont se fixer à ce moment-là sont de trois ordres, plus un, plus quelque chose d'encore plus important, la rédaction de la loi. La circoncision, qui existe déjà depuis longtemps dans le judaïsme, mais qui, au fond, ne deviendra que très progressivement un signe identitaire. Parce que la circoncision existe dans les peuples autour, alentour. Et ce n'est que plus tardivement, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, ce n'est que trois siècles après que ça deviendra la circoncision, le huitième jour, un signe caractéristique du monde juif. Très important, les règles de pureté alimentaire, ce que nous appelons aujourd'hui la cacheroute, qui sépare des autres peuples et qui n'ont pour but que de rappeler à chaque moment de la journée où on mange, alors une fois, deux fois ou trois fois, mais enfin de toute façon on mange, hein, ça on ne peut pas y échapper. Donc, puisque personne ne peut y échapper, chaque fois qu'on mange, il faut se rappeler que ça vient du don de Dieu et qu'on doit manger en reconnaissant le don de Dieu. La cacheroute n'a pas d'autre raison profonde que de rappeler aux Juifs, à chaque fois qu'il prend une nourriture, que la nourriture vient de Dieu et que l'action de grâce doit retourner vers Dieu. Après, il y a un détail pas possible, on en reparlera, de règles de pureté, d'impureté. Mais c'est second par rapport à cette notion essentielle, qui est admirable quelque part. Et puis, ce qui sépare beaucoup ce petit groupe juif et ceux qui sont restés à Babylone aussi des autres, c'est l'observation du sabbat, le repos du septième jour. Enfin, ce qui va marquer ce judaïsme naissant, c'est la rédaction de la loi, la Torah, qui va s'accomplir là, à Jérusalem. Elle a commencé à Babylone, elle s'achève à Jérusalem pendant le siècle, ou le siècle et demi qui suit le retour, entre 500 et quelque chose comme 450. Tout cela, en tout cas à Jérusalem, est mis en œuvre par les scribes et les prêtres, et notamment, comme le temple va être très vite reconstruit, avec l'aide, en tout cas avec l'autorisation, mais aussi avec l'aide, parce qu'il fallait financer, des Perses, le temple va être reconstruit dès les années 500, un petit temple modeste qui ressemble à un temple perse. Enfin, c'est le temple du Dieu d'Israël qu'ils connaissent comme le Dieu unique. C'est autour du temple que la vie juive va s'organiser avec des cultes et des sacrifices. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans l'Exode ce texte extraordinaire au chapitre 19 où Moïse dit « Mais vous êtes un royaume de prêtres, un peuple de rois et un royaume de prêtres ». Vous voyez que c'est un judaïsme qui s'organise au fond autour de deux pôles, le culte, avec tous les rites qui s'y rattachent plus ou moins, et la loi, la Torah, de l'autre côté. Alors, je m'arrête plus longtemps sur ce pôle de la loi, parce qu'au fond, même si ce n'est pas ce qui sera premier à l'époque de Jésus de Nazareth, parce que le temple aura une importance énorme, la loi reste quand même le point fixe de tout le judaïsme, non seulement de Jérusalem, mais toute la diaspora. Tous les juifs du monde perse, ensuite du monde grec, ensuite du monde actuel, se retrouvent autour de cette loi qui va être la mise au point, la constitution finale des cinq premiers livres de ce que nous, chrétiens, nous appelons l'Ancien Testament, que nous appelons, que les Juifs appellent la Torah, que les Grecs appellent le Pentateuque, cinq rouleaux, qui sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Interroger un Juif pratiquant aujourd'hui, l'essentiel de sa vie, le cœur de sa foi, c'est la Torah. Alors vous allez dire, et les prophètes, oui, on lit aussi les prophètes, on lit aussi les... Au centre, la Torah. Et c'est à ce moment-là, à Jérusalem que vraiment cette Torah, dont évidemment les textes et les traditions sont reçus depuis longtemps, ont été retravaillés, remis au point à Babylone, mais enfin c'est quand même à ce moment-là qu'elle prend sa figure ultime. Le texte que nous avons aujourd'hui, c'est à peu de choses près le texte qui a été fixé entre 500 et 450, plutôt entre, peut-être certains disent jusqu'à 350. Allez, entre 500 et 400, à Jérusalem, par les scribes et les prêtres. La force de ce texte, c'est, et nous en avons déjà parlé au mois de septembre, donc je le rappelle que rapidement, mais il faut quand même le savoir, c'est qu'il résulte d'une négociation. Les compromis, on sait bien aujourd'hui qu'on ne vit que de compromis. Et quand il n'y a pas de compromis, on ne vit pas. Vous le savez, on marche. Bon. Alors, ce texte est le fruit d'une négociation, et ça se voit quand on regarde de près le texte, entre le groupe des prêtres, grands prêtres et prêtres, ces gens qui, finalement, avaient au plus gardé et déployé une identité autour du culte et des rites des groupes juifs à Babylone et au retour, et le groupe des scribes, ceux qui étaient davantage de la tradition écrite qu'on recopie, qui se transmet, et qui sont ceux qui ont recueilli non seulement le livre du Deutéronome, la deuxième loi, mais aussi toute l'histoire qu'on appelle Deutéronomie, c'est-à-dire les livres de Samuel, des rois, et finalement l'histoire d'Israël à travers les siècles. Il y a eu des négociations et, au fond, cette façon de composer des textes par compromis explique et éclaire beaucoup de choses dans la Bible, dans votre Ancien Testament. Quand vous ouvrez l'Ancien Testament et que vous lisez le livre de la Genèse, vous avez deux récits de création qui sont, ils racontent la même chose. Dieu a créé le monde et l'homme à son image. N'empêche qu'ils n'ont pas d'autres points de concordance entre eux. Ce sont deux récits entièrement différents. Deux mythes, au sens fort du terme, façon d'expliquer la naissance du monde, totalement différents. Et vous ne pouvez pas les faire coïncider. Si vous tenez absolument à être créationniste, à croire que Dieu a créé le monde en 7 jours, il vous faut barrer le deuxième récit de la Genèse. Parce que là, ça ne marche pas. Voilà. L'explication de la présence de ces deux récits, c'est qu'on est dans un texte de compromis où on sait bien que les uns n'ont pas raison contre les autres, que c'est ensemble qu'on peut dire quelque chose du projet de Dieu sur le monde, qui est en fait un projet qui nous dépasse tellement qu'il est à la limite indicible. Alors on négocie, il y en a qui ont une tradition de création en 7 jours, qui est une célébration de la beauté de la création. Il y en a qui ont une tradition peut-être plus ancienne d'un dieu potier et d'un homme qui finit par se révolter. Et on ajuste tout ça pour montrer qu'au fond, on dit ce qu'on essaie de comprendre du projet de Dieu, mais que personne n'a la vérité entière et qu'on ne sait pas tout. Ça, c'est une incroyable leçon pour nous chrétiens jusqu'aujourd'hui. Personne n'a toute la vérité. De Dieu, on sait ce qu'il nous révèle, est-ce que nous essayons, et chacun aussi essaye, d'en comprendre et d'en dire. Lorsque ces textes ont été comme ça négociés, ajustés ensemble, et ont fini par donner des grands rouleaux, il y a eu, dans les années 450, à Jérusalem, sous l'égide, avec la direction d'un homme qui s'appelle Esdras, et dont je ne peux pas vous dire s'il était prêtre, s'il appartenait au groupe des prêtres ou s'il appartenait au groupe des scribes, parce que la Bible dit les deux. Et on a, sous la convocation d'Esdras, et je vais vous lire le petit bout de texte, vous pourrez le retrouver au chapitre 8 du livre de Néhémie que vous n'ouvrez pas tous les matins, sauf quelques-uns. Bon. Vous pouvez aller voir le chapitre 8, où il y a une incroyable scène qui est au fond une reproduction, on remet en route le don par Dieu de la loi au Sinaï. C'est-à-dire qu'on va revivre à Jérusalem ce don de la loi au Sinaï. C'est l'occasion d'une fête qui va s'appeler la fête des huttes ou des tentes ou des cabanes et qui se célèbre encore aujourd'hui au mois de septembre, hein, la fête des tentes et après le Kippour, une très grande fête juive aujourd'hui où pendant 8 jours, on célèbre le don de la loi par Dieu à son peuple. Alors je vous lis un petit passage de ce chapitre 8 parce qu'il est très éclairant. Tout le peuple, comme un seul homme, attention, il n'y a pas que les hommes, hein. Vous allez voir, il y a aussi les femmes et les enfants. Comme un seul homme se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée où se trouvaient les hommes, les femmes et tous ceux qui étaient à même de comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Ça se fait encore comme ça. Esdras lut dans le livre sur la place depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée, en face des hommes, des femmes, de ceux qui pouvaient comprendre, et les oreilles de tous étaient attentives au livre de la loi. Le scribe Esdras était debout sur la tribune de bois. Alors on a demandé au prêtre Esdras d'apporter le livre, maintenant c'est le scribe Esdras. La réconciliation des deux courants, hein. Était debout sur une tribune de bois qu'on avait fait pour la circonstance, et à côté de lui se tenait, alors je vous évite la liste des noms, il y a une dizaine de personnes à droite, une dizaine de personnes à gauche. Esdras ouvrit le livre. Il était au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, tout le peuple répondit « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Et ceux qui étaient à gauche et à droite d'Esdras expliquaient au fur et à mesure la loi au peuple. Et le peuple restait debout. Esdras lisait et eux expliquaient de manière distincte en donnant le sens. Autrement dit, ce que lit Esdras, c'est la loi rédigée en hébreu qu'ils avaient ramenée de Babylone. Est-ce que dans la langue, qui était la langue des pères et la langue de la loi de Moïse et la langue religieuse qui restait la langue de la Bible juive. Mais ceux qui écoutaient ne parlaient plus hébreu, ils parlaient araméen, une langue voisine, qui était la langue de tout l'Empire perse. Et donc, il fallait traduire, première traduction. Cette traduction de la loi, elle a été orale pendant presque 500 ans. Vous la voyez, en fait, un peu à l'œuvre dans le Nouveau Testament, quand Jésus va à la synagogue de Nazareth. On lit la loi ou les prophètes en hébreu, et quelqu'un traduit. Quand ça a enfin été mis par écrit, après Jésus-Christ, en 150, ça s'est appelé le Targum, en araméen, qui est une traduction expliquée de la loi juive. Ça va ? Vous voyez, on a déjà en germe tout ce qui se lit encore aujourd'hui. On lit en hébreu, on explique, ah ben, dans la langue des gens, hein, on explique pour qu'ils comprennent. Voilà. Alors, je vous lis la fin. Hein. Alors, évidemment, le peuple, à ce moment-là, se mit à pleurer et à être dans le deuil. Il pleurait en entendant les paroles de la loi, car il ne l'avait pas suivi. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre scribe, et tous ceux qui donnaient des explications leur dirent « Ne pleurez pas, allez, mangez de bons plats, buvez d'excellentes boissons. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Partagez avec ceux qui n'ont rien pu préparer. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. » Et ensuite, faites des cabanes et pendant 8 jours, on va faire la fête des tentes. Voilà. Voilà au fond ce qui se passe à ce retour d'exil, environ 100 ans après, ou 120 ans après. La loi est maintenant au centre du monde juif. Et à partir de là, on va voir qu'il va y avoir des débats. Des débats dans tous les sens. Et une fois que la loi est fixée, on va continuer à se battre. Et se battre d'abord pourquoi ? Faut-il rester fermé autour de la loi, dans ce petit groupe juif identitaire avec sa loi, son temple, son culte ? Ou faut-il accepter que ceux qui étaient restés sur place et qui avaient un peu oublié le Dieu d'Israël et qui avaient épousé des femmes étrangères se mêlent à nous et au fond apportent ces éléments extérieurs que sont leurs femmes étrangères ? Et là, on va avoir des débats dont la Bible est témoin. Un groupe, le groupe des prêtres et des scribes, est extrêmement fermé et identitaire. Et à la fin du livre Néhémie, au chapitre 13, vous avez une convocation de tous les hommes juifs de Jérusalem et du pays autour, renvoyez vos femmes étrangères. Elles sont impures, je vais revenir sur la notion de pureté. Elles vont finalement vous attirez vers des idoles, vers d'autres dieux, c'est ça toujours la peur, hein. Vous perdrez le dieu unique, envoyez-les. Au même moment, vont se dresser d'autres, la veine prophétique, certains des scribes, qui vont dire, est-ce que c'est si vrai ça? Et vous allez avoir des petits récits, comme le livre de Jonas, relisez-le, c'est un joli conte, comme le livre de Ruth, qui est aussi un conte ravissant, qui vont montrer que, eh bien, parfois, il y a des étrangers, comme la ville de Ninive chez Jonas, comme Ruth, hein, la femme moabite, dans le petit livre de Ruth, des étrangers ou même une étrangère qui sont plus attachés et plus fidèles au Dieu d'Israël et à sa loi que vous autres, bons juifs, qui êtes restés là. Et au même moment, on a ce livre de Néhémie qui est extraordinairement dur et excluant, et ces textes de contes ou de récits, de petits livres, qui vous montrent qu'au contraire, une partie de ces groupes juifs accueillait, voulait accueillir, au contraire, ceux qui venaient du paganisme, mais qui voulaient être des fidèles au Dieu d'Israël. Ça marche ? C'est probablement aussi à ce moment-là qu'on a ajouté au livre de la Genèse une finale avec l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph, un des fils de Jacob, qui s'en va en Égypte et qui, en Égypte, au fond, fait fortune. Un espèce de retournement de l'image de l'Égypte. L'Égypte, c'était le pays de l'esclavage, d'où on était sorti avec l'Exode. Mais maintenant, il y a des Juifs qui sont installés en Égypte et qui y sont heureux et qui sont fidèles au Dieu d'Israël. Et il faut donc montrer qu'eux aussi font partie de notre groupe. Et l'histoire de Joseph est cette histoire d'une difficile réconciliation entre les frères qui sont restés en Judée, en Palestine, ce qu'on appellera plus tard la Palestine, disons autour de Jérusalem, et le frère qui est parti s'installer en Égypte et qui est aussi un bon juif et avec qui on va, au fond, refaire une unité. Voilà, tout ça, là, ce moment-là, vous voyez, est un moment extrêmement fort de mise en place de ce monde juif autour de la loi, autour, je ne l'ai pas dit assez, ça n'est pas sur l'écran, mais c'est dans vos livres, autour du temple aussi. Autour du temple, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce sont des scribes qui écrivent la loi, ce sont des prêtres qui célèbrent le culte et qu'au culte sont reliées les fêtes de pèlerinage et beaucoup de rites. Et que le temple va prendre une importance extrême avec une notion que je souligne, là je ne la souligne pas assez dans le PowerPoint, mais qui va être très importante à l'époque de Jésus, la notion de pureté. Pur, impur, vous savez bien que c'est partout dans le Nouveau Testament. Le lépreux qui est impur, la femme adultère qui est impure, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens, ces païens ou ces percepteurs d'impôts qui, effectivement, sont des juifs, mais impurs, ils ont trafiqué avec les Romains. Là, le problème du pur et de l'impur est omniprésent dans le Nouveau Testament. Hein, et Jésus répond en franchissant toutes les frontières. Or, cette notion de pureté, c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise en place autour du temple. Autour du temple, parce que, et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre des choses, non seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, ce qui est pur, c'est tout simplement ce qui est du côté de Dieu. Dieu seul est le parfaitement pur, le parfaitement un, le parfaitement saint. Dire que Dieu est saint ou dire que Dieu est pur, c'est la même chose. Et dire aussi qu'il est le vivant. Ce qui est pur, c'est ce qui est proche de la source de vie qu'est le Dieu unique. Plus vous êtes proche de la source de vie qu'est le Dieu unique, plus vous êtes pur. Et du coup, on va comprendre que la notion d'impureté n'est pas nécessairement morale. Bien sûr, celui qui désobéit à la loi et qui tue son voisin ou qui vole, etc., s'éloigne de Dieu. Et il va apparaître du côté des impurs. Mais tous ceux qui sont handicapés, malades, lépreux, quelque part atteints dans la part vivante de leur être, ils sont considérés comme impurs, mais c'est pas on ne les stigmatise pas du point de vue moral. Simplement, on va leur proposer des rites de purification pour être réintégrés dans le groupe de ceux qui sont proches du Dieu vivant. Ça marche ? Alors, cette notion de pureté, elle est intégrée à l'idée du temple. Ce qui est tout autour du temple, c'est là qu'est la pureté. Et ensuite, on va avoir une série de lieux de moins en moins purs. Au cœur du temple, qu'est-ce qu'on a ? On a le lieu où il n'y est plus, dans le temple reconstruit à l'époque perse, mais où on a le souvenir qu'à époque ancienne reposait l'arche, qui est le siège, le trône du Dieu vivant. L'arche avec les chérubins, où Dieu descendait, paraît-il, au milieu de son peuple. En tout cas, on l'a perdu, l'arche, dans la bagarre. Donc le Saint des Saints, il est vide. Le grand prêtre va y rentrer chaque année pour le rite de Kippour, après s'être purifié pendant 8 jours et longuement, etc. Mais c'est là, au fond, qu'est la présence la plus sûre de Dieu au milieu de son peuple. C'est le Saint. Le Saint, le pur, le Dieu vivant. Autour, une autre cour qui est, ou une autre place, une autre chambre, qui est le... Alors, le Saint des Saints est au centre, le Saint est autour. Là, les prêtres pénètrent pour offrir des sacrifices à Dieu. Et autour, on a des parvis. Alors, par ordre, alors là, excusez, c'est l'époque qui veut ça. On a le parvis des hommes, où nul n'entre s'il n'est circoncis sous peine de mort, donc les femmes n'entrent pas, excusez-moi. C'est le parvis des hommes. Autour, le parvis des femmes. Et autour, le parvis des païens et des marchands, où on change la monnaie, où on achète. Voilà. Et donc, le temple décrit bien ce monde centré sur la pureté qui est liée à la présence du Dieu vivant et des cercles successifs de moins en moins purs. C'est ça que Jésus va abattre. Mais vous voyez que c'est installé, mis en place depuis déjà 500 ans. Depuis que le temple est là, même si ensuite il est détruit, reconstruit ou ragrandi, on en parlera, cela est mis en place. Le temple, la loi, et tout autour, une littérature qui va se développer, issue largement du passé, mais qu'on va utiliser, les psaumes pour les chants au temple et pour la vie, la liturgie à la maison, la vie quotidienne, les livres de sagesse et cet étonnant livre de Job, qui est une espèce de coup de poing au milieu de la Bible, dans l'idée qui est encore présente, qu'on appelle la théologie de la rétribution. J'ai bien agi, Dieu me récompense, je suis heureux et riche, ajouterait M. Trump, et puissant. Et bien des fois, j'ai bien agi et Dieu ne me récompense pas. Et je suis malheureux et pauvre et malade et mourant, et c'est le cri de Job. Et là s'ouvre un immense débat qui va aussi trouver des échos dans le Nouveau Testament. Quand on demandera à Jésus à propos de l'aveugle né, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ? Et Jésus répond, ni lui, ni ses parents. Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et il y a ce débat à plusieurs reprises dans l'Évangile. Ces gens sur lesquels la tour de Siloé s'est effondrée, ces gens que Pilate a mis à mort, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Mais rien, répond Jésus. Convertissez-vous. Vous, mettez vos vies en règle, et ensuite on rediscute. Voilà. Donc voilà des problèmes, vous voyez, j'essaye de poser des notions, comment elles sont apparues dans le temps, qui vont nous permettre de comprendre les débats du Nouveau Testament. Encore une notion, pendant un siècle, ou un siècle et demi, on va avoir des prophètes qui vont continuer à se dresser devant ses prêtres et ses scribes, à nouveau pour dénoncer, annoncer, dire que voilà, il faut sans arrêt se convertir. Et pas seulement de façon rituelle et pas seulement par des sacrifices, mais que la conversion du cœur est nécessaire. Ça y est partout, dans la fin du livre d'Isaïe. Chez Zacharie, Joël, le livre de Joël est une immense liturgie de conversion, de réconciliation et de demande de pardon. Des prophètes qui vont commencer à annoncer, avec le dernier, Malachie, qu'un jour, un prophète comme Moïse va apparaître, qui va préparer les chemins du Seigneur, et que le Seigneur un jour viendra. Et là apparaît aussi, est présente déjà cette espérance juive, qu'on va appeler espérance messianique, d'un moment où Dieu viendra, précédé par qui ? Ça dépend des textes, un prophète, un roi descendant de David. Ils en avaient ramené un de descendants de David de Babylone. Un qui avait un nom babylonien, mais qui semble bien avoir été de la famille du roi qui était exilé à Babylone, un dénommé Zorobabel. On en entend parler 5 minutes, et ensuite il est remplacé par le grand prêtre. Et pour nous, ce remplacement se passe au milieu du livre de Zacharie. Il y a quelqu'un qui lève la couronne au-dessus de Zorobabel, et c'est le grand prêtre Josué qui la reçoit. Le livre ne s'explique pas, mais on voit bien que ce descendant de David n'a pas fait souche, et que ce sont les prêtres qui ont, au fond, pris le contrôle, étaient à la tête de ce monde juif à Jérusalem et ailleurs, étant bien entendu que, comme de toute façon, on était sous le pouvoir perse, on n'avait pas bien envie que des effervescences, que des troubles messianiques et que des troubles demandant un roi se manifestent, parce que là, pour le coup, les Perses qui étaient favorables seraient intervenus. Donc, cette espérance-là, elle couve, mais le plus bas possible. Et ça va être le cas pendant longtemps, hein, l'espérance messianique. Elle est là, on attend la venue du Seigneur, mais pas trop fort. On a la loi, on a le culte au temple, contentez-vous. Si bien que, à partir de la fin du 5e siècle, le début du 4e siècle, donc les années 300, enfin à l'envers, entre 500 et 400, la prophétie disparaît. La prophétie disparaît, on n'a plus de prophètes pendant les 3 ou 4 derniers siècles avant Jésus. Or, qu'est-ce qui se passe? Alors, la prophétie disparaît. En termes juifs, on dit « les cieux sont fermés ». Les cieux sont fermés. Il y a dans le livre d'Isaïe, le dernier, la fin du livre d'Isaïe qui est tardif, « ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». C'est bien l'idée que les cieux sont fermés, il n'y a plus de prophétie. Dieu ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe au début des évangiles dans le Nouveau Testament? Au tout début de Marc, un peu plus loin, chez Matthieu et chez Luc, Jésus apparaît dans le sillage de Jean-Baptiste, il va se faire baptiser par Jean et les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend. C'est la réouverture des cieux que le Nouveau Testament proclame. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, aussi chez les autres, mais plus nettement chez Luc, pendant 5 ou 6 ou 7 chapitres, va être considéré comme un grand prophète dans son pays. Il disait, un grand prophète s'est levé parmi nous et il glorifiait Dieu. Vous avez ça dans le début de l'évangile de Luc. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire les liens pour montrer que là, on a quelque chose qui au contraire s'est arrêté, mais qu'on attend et qui va se réouvrir. Alors, après tout cette espèce de tableau des éléments forts de ce que devient le judaïsme, de ce judaïsme naissant, au retour d'exil, je vais revenir à l'histoire, parce qu'on comprend aussi le Nouveau Testament par l'histoire de ces 5 siècles, qui est une histoire très troublée, surtout à partir des 2 derniers. Il y a 3 siècles calmes, et puis à la fin, ça se gâte. Donc, l'Empire perse, dont je vous ai montré l'ampleur tout à l'heure, voilà, vers 500, l'Empire perse est donc cet immense empire qui laisse aux Juifs une autonomie religieuse et qui même leur permet de reconstruire le temple. Et ensuite, grâce à Néhémie, dont on a parlé, et qui est probablement quelqu'un qui vient de l'administration perse, hein, un Juif embauché dans l'administration perse. Grâce à Néhémie, ils ont même pu reconstruire les remparts de Jérusalem. Ça se passe à peu près bien. Ça va se passer bien jusqu'à ce qu'arrive un trublion en 333-323 qui est Alexandre le Grand. Alors, je ne vais pas vous raconter Alexandre le Grand, les films et les livres foisonnent. 10 ans d'une épopée étonnante où, à partir de la Macédoine, là, toutes les couleurs représentent des morceaux de l'Empire d'Alexandre. Mais l'Empire d'Alexandre, il va de la Grèce jusqu'à l'Inde. En 10 ans, il couvre tout. En passant par l'Égypte, par l'Afrique du Nord et par l'Égypte. Bon. Une épopée folle, avec partout, il ne faut pas exagérer, partout des destructions, hein, ils ne sont pas passés sans rien détruire, mais quand même partout, le souci d'implanter la civilisation grecque. C'est-à-dire que partout, on va avoir une floraison de villes qui s'appellent toutes Alexandrie. Alors, je ne vous les énumère pas, mais sur cette carte, il y a au moins une douzaine d'Alexandrie. Vous connaissez celle d'Égypte. On a retrouvé des choses dans la mer, bon, au nord du Caire. Mais il y en a une douzaine. Alexandre fonde partout des villes grecques, avec partout un gymnase, si possible un théâtre, une bibliothèque, etc. C'était aussi un homme de culture. Et c'est, au fond, le point de départ d'une immense diffusion de la civilisation grecque et de cette langue grecque, qui était la langue classique d'Athènes, qui va devenir celle qu'on appelle la koiné, la langue commune. Tous ces gens-là, qui étaient unifiés par la langue propre, la langue diplomatique, on va dire, du monde perse, qui était l'araméen, tous ces gens-là vont se mettre à parler grec. C'est indispensable, parce que l'administration nouvelle parle grec, que les commerçants ont besoin de se faire comprendre, et donc tout le monde apprend plus ou moins le grec. Nos évangélistes, les disciples de Jésus qui mettront par écrit l'évangile, la mettront par écrit en grec. Même si il y a des lieux de résistance, bien sûr, et un lieu de résistance, par définition, c'est la Judée et un peu la Galilée. C'est le monde juif qui, lui, va résister à la présence du grec, encore que dans la diaspora, en Égypte, à Babylone, partout ailleurs. Alors, à Babylone, on va garder l'araméen, plus ou moins, mais en Égypte en particulier, et partout ailleurs, dans l'actuelle Turquie, ces Juifs vont se mettre à parler grec. Au point que, à l'époque de Jésus, et même avant, 2 ou 3 siècles avant, les Juifs d'Égypte ne comprennent plus ni l'hébreu ni l'araméen. Ils ne comprennent plus rien. Il faut du grec. Ça, c'est la faute à Alexandre. Alors Alexandre, ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 ans. Ensuite, il meurt foudroyé, apoplexie ou autre chose, j'en sais rien. Et évidemment, ensuite, ses généraux se disputent l'Empire. Ils en veulent tous un morceau. Alors, il y a eu des négociations, il y a eu des guerres, passons. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en haut, en gros, il y a eu 2 ou 3 blocs. Je simplifie au maximum, il y a 2 blocs. Attendez, je reviens en arrière. Un bloc bleu. Vous voyez le bloc bleu ? L'Égypte. L'Égypte qui va appartenir tout de suite, à partir de 323 et jusque en l'an 30 avant Jésus-Christ, qui va appartenir à une dynastie grecque qui est celle des Ptolémées. Et comme le premier s'appelle Ptolémée Lagos, Ptolémée le lièvre, on va les appeler les Lagides. C'est la grande dynastie des Ptolémées, vous avez entendu parler des Cléopâtre. Et bien, depuis 323 jusqu'à 30, tous les hommes s'appellent Ptolémée, toutes les femmes s'appellent Cléopâtre. C'est facile. Les reines, c'est Cléopâtre, les rois, c'est Ptolémée. La Cléopâtre bien connue, qui a été la maîtresse de César après celle d'Antoine, et s'est suicidée avec Antoine, c'est Cléopâtre 7. Donc voilà, il y a 7 générations au moins de Cléopâtre avant. Voilà, eux, ils forment un bloc qui va rester solidement. À l'est, on a un bloc beaucoup plus grand, qui est le bloc, je ne sais pas comment c'est vert-jaune. Vert-jaune, moi je l'ai vert, vous l'avez jaunasse. Bon. Cet énorme bloc, qui à un moment donné mangera même la partie marron, cet énorme bloc, il va appartenir à des rois dont le premier s'appelle Séleucos. Je dis ça, mais vous oubliez, hein, ce n'est pas intéressant. On les appellera les Séleucides. Rappelez-vous que le nom générique, c'est Antiochus. Ça, c'est important parce qu'on va en avoir un très méchant. Qu'est-ce qui va se passer sous ces rois pour notre monde juif ? Pas grand-chose. On change de maître. Non, je ne sais pas encore. On change de maître. En gros, on continue à payer l'impôt. Et pourvu qu'ils les laissent, au fond, vivre leur religion et leur foi juive tranquille, voilà. L'impôt peut être un peu plus lourd, un peu moins lourd selon les époques, rien ne va mal, on accepte. Au début, et pendant plus d'un siècle, tout va bien, parce qu'on est sous la domination verte des gens de l'Est, des Séleucides. Ça va, vous voyez ? Vous voyez qu'il y a un petit triangle qui est entouré de bleu ? Ce triangle entouré de bleu, c'est le triangle qui nous intéresse. C'est en gros le monde juif. Et pendant un siècle et demi, un peu plus d'un siècle, il est sous la domination de ceux de l'Est, des Séleucides, on vit normalement. Mais, Mais évidemment, comme toujours, ceux-là vont vouloir descendre en Égypte et conquérir le royaume égyptien, ce qui ne plaît pas du tout aux autres. Et donc, on va avoir, comme toujours, des guerres. Et les guerres vont se situer où ? Eh bien, à l'endroit où se trouve, évidemment, la Judée-Galilée. C'est le seul passage. Ils ne peuvent s'entretuer que là, puisqu'ils peuvent passer que là. Et donc, on va avoir des guerres, donc une série de malheurs, appauvrissements, etc., jusqu'au moment où c'est... Je vous ai dit que des bêtises. On était sous les Égyptiens et on n'était pas sous les gens de l'air. Effacez tout, je recommence. On était sous les Bleus, et c'est pour ça qu'il y a le cadre bleu. On était sous les Bleus, sous les Égyptiens, et tout allait bien. C'est ceux de l'Est qui vont venir essayer de reprendre ce petit bout et qui vont le gagner, l'emporter en 202. Et ceux-là, ils vont être très différents. Et c'est cohérent, parce que les Égyptiens n'ont jamais beaucoup regardé. Ils acceptent l'impôt et ils n'ont pas envie d'envahir le pays du Nord, le pays de Jérusalem. Par contre, ceux de l'Est veulent envahir. Ceux-là, ils prennent le pays et eux, ils vont installer là leur politique, qui est une politique d'hellénisation, c'est-à-dire de culture grecque à outrance. Ça marche ? Ce qui m'intéresse, c'est qu'au changement de règne, non plus ceux du sud, mais ceux du nord, correspond un changement de politique complet. Et qu'à partir de 202, le malheur commence. Voilà. On a eu quelques siècles tranquilles, 538, 500 à 200, et à partir de 200, le malheur commence. Pourquoi le malheur commence ? Parce que ceux de l'Est, et je vous ai dit des bêtises, donc on est bien d'accord, c'est les Verts, imposent leurs lois et qu'eux ont fondé partout une civilisation grecque très agressive, très invasive, et qui veulent l'installer à Jérusalem. Et donc que le roi Antiochus IV, je vous ai dit c'est des Antiochus, eh bien, Antiochus IV va mener une politique d'hellénisation forcenée. Il veut installer quoi ? Devinez, la statue de Zeus, le roi des dieux grecs, dans le temple de Jérusalem. Vous voyez le problème ? Alors, il délaie un peu, il retarde un peu, pas tout de suite. Il commence par installer un gymnase, par essayer d'installer une bibliothèque. Il commence par inviter les jeunes juifs à venir se former, selon l'éducation grecque, qui est à la fois physique et intellectuelle, au gymnase. Le problème, c'est qu'au gymnase, les exercices se font tout nus. Les hommes sont nus. On s'enduit de sable et d'huile et de sable, mais on est tout nus. Quand on est juif et circoncis, ça se voit. D'où une espèce de malaise terrible chez les jeunes juifs qui voudraient bien participer à cet élan d'éducation, de formation intellectuelle. La civilisation grecque, c'est quand même fascinant. C'est étonnant du point de vue intellectuel, la philosophie. Et qui, quelque part, au bord du gymnase, bute. Et certains, la Bible en témoigne, vont subir, se faire des opérations de décirconcision. Alors, se faire refaire un prépuce, comme on dit. Alors, c'est technique, excusez-moi, mais ça a été quand même l'occasion de la grande révolte juive. Parce qu'à ce moment-là, la circoncision devient la marque identitaire par excellence. Ou vous abandonnez, vous vous faites opérer et vous quittez le judaïsme, ou vous restez, et alors là, vous devenez les ennemis du pouvoir grec. Vous voyez, je veux dire, on n'a plus le choix, là. Quand on a 20 ans et qu'on est sous Antiochus Épiphane à Jérusalem, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Mais il n'y a plus de moyen terme. Ça, c'est la politique d'Antiochus Épiphane qui va évidemment provoquer des soulèvements, des révoltes, des résistances, des conflits à l'intérieur du judaïsme, la condamnation des uns par les autres, à tel point que lorsque il va tenter d'installer une statue d'une idole, c'est une idole, dans le temple, on va avoir un soulèvement très violent qui couvait déjà, mené par la famille de Mattathias, un prêtre, qui a une série de fils, et dont le troisième fils, Judas, prend la tête de la révolte, et tapé tellement fort qu'on va l'appeler Judas Maccabée, Judas le marteau. Alors, ce nom de Maccabée est très gênant en français, très ambigu. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire Judas le marteau, celui qui tapait sur les Grecs. Voilà. Pendant 3 ans, de 167 à 164, une grande partie de la jeunesse des hommes, mais aussi des femmes juives, va se révolter et pour certains passer dans le maquis. C'est vraiment des maquisards. Ils vont faire des opérations de descente sur les troupes grecques. Ils vont taper ici ou là les fonctionnaires en place. Enfin, ils vont mener une guerre de guérilla. Une guerre de guérilla terrible. Beaucoup d'entre eux vont mourir. Le pouvoir grec n'est pas tendre. Ils persécutent. Ils supplicient. Et vous avez l'histoire connue de la mère qui encourage ses 7 fils. On les a confondus avec les frères Maccabée, mais ce n'est pas les mêmes. Ses 7 fils à subir le martyre pour respecter la loi juive, ne pas manger du porc. Alors ça paraît ridicule, accepter un martyre terrible pour ne pas manger du porc, mais le problème n'est pas là. Rester fidèle à la Torah, qui est la loi de Dieu, et ne pas obéir au pouvoir grec qui est idolâtre. Donc il y a le récit, on le lit dans nos liturgies, de ce martyr des 7 fils. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais en 167, ces groupes juifs jeunes qu'on a appelés ensuite les fidèles, les rassidim, et vous avez encore des groupes de rassidim aujourd'hui, de fidèles, ces fidèles vont triompher, c'est-à-dire que les Grecs sont obligés de se retirer, et de retirer leurs troupes, et le roi grec renonce à la mainmise sur le territoire. Et eux vont commencer par purifier le temple. La purification du temple de Jérusalem est datée, je n'ai pas la date, mais d'un jour de décembre, actuellement ça fait quelque chose comme le 18 décembre, 164 avant Jésus-Christ, et c'est cette purification du temple que les Juifs fêtent aujourd'hui avec la fête de Hanouka. Vous avez entendu parler de Hanouka, la fête des Lumières, leur Noël si vous voulez. Leur Noël, c'est la mémoire de la purification du temple par les frères Judas, le marteau et ses frères en 164. Ça va, ça? Alors après, eh bien, ça va mal se passer. Alors, je dois ajouter quand même qu'il y a des choses qui se passent mieux. Je vais venir après à ce qui se passe mal. Je m'arrête en 164. Parce que pendant ce temps, pendant que ça se passe si mal en Judée, ça se passe plutôt bien en Égypte. Les Égyptiens ont accepté, les rois grecs, les Ptolémées, ont accepté le judaïsme de la diaspora égyptienne qui était extrêmement nombreux. À l'époque de Jésus, il y a 2 quartiers sur 5 d'Alexandrie qui sont des quartiers juifs. Extrêmement nombreux, qui se sont mis à parler grec très volontiers et qui ont probablement avec l'aide du roi et du bibliothécaire d'Alexandrie, commencer à traduire la loi, la Torah en grec, ce qui a donné le Pentateuque. Et ceci, on a la date, c'est fini en 285, mais la traduction de toute la Bible va se continuer pendant que les malheurs arrivent en Palestine. Eux, ils continuent à traduire. Ils traduisent les prophètes, les psaumes, les prophètes, et finalement, à peu près toute la Bible est traduite en 130. Cependant qu'apparaissent de nouveaux livres qui, eux, sont écrits en Judée et qui vont raconter la victoire des frères Maccabées sur les Grecs. Les 2 livres dits des martyrs d'Israël, mais aussi le livre prophétique, très symbolique, très proche déjà de l'Apocalypse, parce qu'on prétend se passer dans le passé pour raconter le présent. On raconte ce qui se passe aujourd'hui en l'attribuant à l'époque du passé, pour se cacher. Le livre de Daniel, ça va? Donc, vous voyez qu'il y a 2 mondes juifs là qui vivent des choses très différentes. Celui de Judée, autour du temple, qui vit un traumatisme terrible, mais une victoire. Et celui de l'Égypte, probablement aussi de la diaspora à Babylone, là on ne sait pas trop, à ce moment-là elle se cache. Celui de l'Égypte qui au contraire s'inculture, traduit en grec les textes et, au fond, vit heureusement, au moins pendant quelques siècles, son judaïsme égyptien. Voilà. Et alors, notre Nouveau Testament, on voit bien qu'il est à la fois dans ce monde juif très identitaire, qui restait très identitaire de la Judée, et en même temps, il est en grec, et il est déjà, au fond, l'œuvre de ces juifs dont la tradition, et pas seulement en Égypte, ils ont immigré partout, dont la tradition est celle d'une inculturation dans le monde où ils sont. Ça va, ça, c'est un peu délicat et difficile, mais est-ce que ça marche? Oui? Oui, nombreux contacts. La légende veut que la traduction en grec du Pentateuque, la Torah, des cinq premiers livres, la Torah devenue Pentateuque. Alors, il y a une très belle légende qui veut qu'elle est faite sur l'ordre du roi, Ptolémée, et de son bibliothécaire. En fait, ils ne s'entendaient pas, hein, tous les deux, mais la légende veut que ça soit fait bien. Ils vont chercher en Palestine, en Judée, 70 vieillards qui sont donc des gens de là-bas, mais qui savent le grec. On ne sait pas comment, ce n'est pas grave, qui savent le grec. On les amène à Alexandrie. On les installe sur l'île de Pharos, dans un cadre idyllique, avec des bons repas. Ils expliquent leur nourriture séparée. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Chacun dans une petite maison, ils sont servis à demeure et ils doivent traduire. Ils vont traduire toute la loi, les cinq livres. Et quand ils ont fini les 70, un beau matin, ils sortent chacun avec leur traduction et c'est la même. C'est un miracle, évidemment. Et ça, ça veut dire que la loi grecque aussi est inspirée par Dieu. Bon, on verra plus tard que les Juifs qui, eux, ont la Torah en hébreu, ils n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Mais enfin, ça va devenir la loi, depuis 285, ça fait quand même 3 siècles jusqu'à Jésus, la loi en grec du monde juif, d'Égypte et de tous ceux qui parlent grec. Ça va ? Voilà. Alors, c'est une légende, hein, mais elle est très belle et racontée partout. Ils ont traduit chacun et Dieu leur a inspiré le même texte. C'est vraiment un texte inspiré. Ça veut dire qu'il est reconnu par tous. Alors, ce qui se passe à ce moment-là dans ces livres d'intéressant, c'est que ça n'est pas dans la loi. C'est vraiment dans un livre que les Juifs considéreront comme un livre, non pas prophétique, mais comme vraiment un écrit, hein, un livre de sagesse. Ce qui se passe, c'est qu'apparaît avec le livre de Daniel et avec les livres des martyrs d'Israël, des premières formulations peu élaborées, mais déjà présentes, d'une foi en la résurrection des justes. Vous avez quelques mots dans le livre de Daniel. Tes justes se réveilleront, ils se relèveront, ils brilleront comme des étoiles dans le ciel. Et vous avez, dans le deuxième livre des martyrs d'Israël, la mère qui voit mourir et qui encourage ses fils à ne pas trahir la fidélité au Dieu d'Israël et à mourir supplicié, qui leur dit « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles, mais je sais que c'est Dieu qui vous a donné la vie. Vous pouvez mourir, il vous la redonnera. » Vous pouvez être sûr que de façon aussi mystérieuse qu'il m'a donné de vous mettre au monde, il vous rendra la vie. On ne peut pas en tirer des grandes conclusions, mais on voit apparaître ces premiers linéaments d'une foi en la résurrection, ou en tout cas en une recréation des justes qui va se développer avec certains groupes juifs, dont les pharisiens qu'on va voir apparaître maintenant. Ça va ? Vous avez encore un peu de courage ? Ou on s'arrête ? Vous avez encore 5 minutes ? Allez, 5 minutes. Grand espoir à Jérusalem, on a purifié le temple et on va avoir des rois juifs, dont le premier, Judas le marteau. Et le grand espoir, il s'effondre aussitôt. Parce que ces rois juifs, on les appelle des Asmonéens, c'est leur nom de famille, hein, nom de famille des frères et de leur père Matathias. Ces rois juifs vont se comporter comme les pires des voyous. Comme les pires des voyous, ou comme ont fait toutes les familles royales à toutes les époques. L'Angleterre, les pièces de Shakespeare nous racontent une Angleterre où on s'entretue. Voilà. Et en France, ça a été pareil. Donc, on va assister, et je vous passe complètement les détails, à une série de coups d'État, d'assassinats entre frères, entre neveux, entre cousins, entre voisins, absolument extraordinaire. Ils vont passer leur temps à s'entretuer. Ce qui est très décevant pour des rois qui, au fond, représentaient l'espoir du roi juste, élu de Dieu pour son peuple, plus que décevant. En plus, et on voit bien que c'est une mentalité religieuse très forte, en plus, ce qui va, au fond, les faire détester, c'est que l'un d'eux, 10 ans ou 12 ans après, Jonathan, va s'arroger le titre de grand prêtre. Alors, je veux dire, là, il se met toute l'aristocratie de Jérusalem à dos, hein, parce que ce sont eux, les grands prêtres, et pas lui. Et donc, on va considérer que s'il est le grand prêtre, s'il officie dans le temple, ben, c'est que le temple est impur. C'est que le temple est impur, puisque ce n'est pas le vrai grand prêtre. Le vrai, il a été évincé. D'où, quelque part dans le pays, ce tirage avec le temple, hein, et avec ceux qui, désormais, vont avoir le pouvoir sur le temple. Ils vont continuer, hein, les rois suivants vont garder le pouvoir sur le temple. Alors apparaissent des groupes qui font clairement rupture avec le temple. Premièrement, les Esséniens, qui apparaissent à ce moment-là, et qui sont, bon, ça se discute beaucoup, mais enfin, en gros quand même, des groupes qui se retirent à l'écart dans le désert de Juda pour former des communautés de célibataires et aussi de gens mariés, parce qu'il fallait bien aussi prolonger la tradition, qui considèrent que le temple de Jérusalem est souillé et que donc le grand prêtre n'est pas le bon, et ils attendent un messie grand prêtre qui précédera un messie roi. Ça va ? Et ils vivent à l'écart, sans plus aucune relation avec ce monde juif de Jérusalem. D'autres, probablement plus nombreux, vont se retirer, j'allais dire, non pas physiquement, mais se retirer religieusement. Ils n'iront plus guère au temple et ils vont se séparer du point de vue religieux en se resserrant, comme toujours, autour de quoi ? Les observances de la loi. En lisant aussi les prophètes, finalement, en faisant un judaïsme du livre avant l'heure. Voilà. Ceux-là, ce sont les pharisiens. Le mot pharisien vient d'un mot hébreu, perushim, qui veut dire séparer. Donc voilà, ils se séparent. Et ce sont les pharisiens avec lesquels Jésus entrera sans cesse en débat, pas en opposition nette, hein, en débat. C'est des gens qui ouvrent une culture du débat autour de la loi, hein, et une culture de l'enseignement, de la transmission, des interprétations. Ce sont des gens. Tout ça pour garder dans ce peuple qui est, au fond, en tension par rapport à ses chefs, hein, qui ont été indignes, pour garder dans ce peuple, la tradition juive de la foi au Dieu unique et de la loi de Moïse. C'est ça leur obsession. Du coup, on se sépare du temple et on se regroupe sur la loi. J'achève. Les malheurs ne sont pas finis. Pendant que les frères, les descendants de Judas Maccabée s'entretuent, il y a un peuple qui regarde d'un œil gourmand ce qui se passe là. Ce sont les Romains. Cette fois-ci, ils viennent de l'Ouest, et eux ont commencé, dès 132, la victoire à la Pyrrhus, à manger petit à petit le monde grec. Et ils avancent. Ils avancent tellement qu'en 63, avant Jésus-Christ, Pompée rentre dans Jérusalem et rentre dans le temple. La légende veut même qu'il soit rentré à cheval, dans le Saint des Saints. Dans les évangiles, et là, je prends l'évangile de Marc, on a la même chose chez Luc et chez Matthieu, dans les synoptiques. Chez Marc 13, vous regarderez, chapitre 13, verset 14, il y a un grand discours de Jésus sur le fait que la fin des temps va venir, mais qu'elle n'est pas tout de suite arrivée, mais qu'il y a des signes. « Quand vous verrez l'abomination de la désolation installée là où il ne faut pas. » Alors là, c'est un signe. L'abomination de la désolation installée là où il ne faut pas, c'est clair, même si ça ne vous paraît pas clair. Moi, je vous dis que c'est clair. C'est d'abord la statue de Zeus, qu'Antiochus Épiphane avait commencé à installer dans le temple, qui a été viré, le temple purifié. C'est ensuite Pompée, qui rentre dans le temple de Jérusalem, qu'il faut ensuite purifier. Ce sont tous ces moments de l'histoire où le Saint des Saints a été violé. Ça va ? Et donc, Marc, qui écrit probablement en 70, au moment où le temple va être détruit, comprend bien que la même chose est en train de se passer. Il y a eu aussi Caligula qui a essayé d'y mettre sa statue, mais il n'y est jamais arrivé. Enfin, voilà. On a un témoin dans les évangiles de ce souvenir de ces invasions récurrentes de païens qui ont voulu violer le temple de Jérusalem. Ça va ? Et Jésus dira, il montrera, et l'évangile montrera que Dieu n'est pas, ou pas seulement dans le temple, il est avec le crucifié. Ça va être le tournant. Donc Pompée arrive à Jérusalem et puis il s'en va et les Romains manœuvrent habilement pour tirer les ficelles entre les rois juifs qui s'entretuent entre eux et pour pousser un de leurs généraux qui n'est pas de la famille. Et le fils de ce général sera Hérode le Grand, le roi Hérode. Alors lui, en fait, il est circoncis. Il fait partie de familles qui viennent du sud-est, mais qui ont été converties au judaïsme un ou deux siècles avant. Donc, on peut l'accepter. En tout cas, il reprend le pays avec les armes. À partir de 38, moins 38, Hérode le Grand reconquiert le pays, prend Jérusalem, soutenu par les Romains, et il devient le roi des Juifs. Un homme ambigu, parfaitement ambigu, un tueur. Il a eu une douzaine de fils. Il en a tué 7 ou 8. Le massacre des innocents chez Matthieu, qui a lieu sous Hérode le Grand, est un écho aussi de cette violence du roi qui a tué ses propres fils. Dès qu'ils devenaient un petit peu dangereux, il les éliminait. Il en a gardé 3, mais pas plus. En même temps, cet homme cruel, certainement violent, fait élever à Jérusalem, à partir du petit temple modeste qui avait été souillé, un temple magnifique à la plus grande gloire du Dieu d'Israël et évidemment d'Hérode le Grand. Ce temple magnifique est commencé en moins 20 et terminé en 26. Vous en avez des échos dans l'Évangile. Là aussi, au chapitre 13 de Marc, par exemple, quand Jésus et ses disciples arrivent et que les disciples admirent la beauté du temple. Et Jésus va leur dire, mais il n'en restera plus rien. Voilà. Hérode le Grand est mort en 4 avant Jésus-Christ, d'après notre compute actuelle. Or, Jésus est né sous Hérode le Grand. Les évangiles de Luc et de Matthieu concordent. Donc vous faites le calcul, s'il est né sous Hérode le Grand, un an ou deux, mettons 2 ans, avant la mort d'Hérode, ça veut dire que Jésus est né 6 ans avant Jésus-Christ. C'est pas grave. Il y a eu un problème de datation. La datation de la naissance de Jésus a été faite par un moine du VIe siècle, Denis le Petit, qui a essayé de remettre les choses en place en tenant compte de la fondation de Rome, de la naissance de Jésus qui devenait la source de l'ère nouvelle. De recompter les années, il s'est trompé de 4 à 6 ans. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Donc, nous arrêtons là pour une pause. Un quart d'heure de pause, ça va ? Moi, j'ai plus de voix. J'ai cassé ma voix. Voilà, on s'arrête une pause. Et moi, j'ai cassé ma voix. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein.